présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Portail s'est fermé derrière eux, la voiture file jusqu'au fond vers la maison. Elle suit une route de gravier, des deux côtés il y a des arbres centenaires. La voiture va s'arrêter devant le perron. Le chauffeur sort pour lui ouvrir. Il sort de voiture et va vers la porte d'entrée. Tout à coup, il tombe sur Martin. Toujours le même, avec un panier plein de roses coupées et un sécateur à la main, son chapeau de paille. « Oh, Martin, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, » Martin lui dit.
« Eh oui, monsieur. Avant, de temps en temps, on me voyait passer. J'étais une silhouette familière. » Lorsqu'on avait besoin d'un domestique, on faisait pas appel à moi. Comme Pauline Carton. Mais depuis quelque temps, l'on m'oublie. Pierre-Marc a bien failli me prendre ma place. Ça n'a pas marché à cause de son caractère impossible. Et puis, il n'a pas la classe. Alors je reste dans cette maison. Que l'on a oublié aussi. Ça fait 19 ans. Vous n'êtes pas venu nous voir. La dernière fois, C'était lorsque Charles est arrivé chez nous pour la première fois. Ah, c'était le bon temps. On savait écrire à cette époque-là. Maintenant, ce n'est plus pareil. Galien lui dit, « Soyez pas triste, les beaux jours vont revenir. Et puis, on repensera à vous. »
Merci, monsieur.
Ils sont là ?
Oui, il y a même monsieur Charles.
Bien, je vais voir. Et Galien va sonner à la porte d'entrée. Martin lui dit,
« Attendez, il faut que je rentre, me changer et que je vous ouvre. Vous savez, je joue tous les domestiques ici, sauf la cuisinière. »
Martin ouvre une porte, qui est une porte qui est à côté, qui est la porte des domestiques. Galien attend un peu, puis la porte s'ouvre. C'est Martin, habillé en majordome.
Monsieur Désir,
je suis Galien Diap. J'ai rendez-vous avec monsieur Didier et Flore.
Bien, monsieur, je vais voir.
Galien lui dit, je trouve que vous en faites un peu trop.
C'est mon rôle, monsieur.
Oui, mais moi, je reste là pour combien de temps encore?
Cela permet que l'on vous regarde, monsieur.
Et Martin s'éloigne, puis revient.
Si monsieur veut bien me suivre,
Galien entre. Martin ferme la porte.
Galien suit Martin qui le mène au salon. À l'intérieur de cette belle demeure, rien n'a changé. Tout est aussi classe et en ordre. Il y a toujours autant d'horloges et de pendules. Galien demande, « Et l'oncle ?»
Monsieur est dans sa chambre. Il médite sur les petits bonheurs de la vie. Il a l'intention, c'est d'écrire une petite brochure là-dessus. Comme Proust a eu des petites brochures.
Galien demande, il remonte toujours ses horloges?
Oui, monsieur. Malheureusement, il y a celle du salon qui a un ennui. Elle ne sonne plus. Et une fois, la grande aiguille s'est dévissée. Monsieur a bien essayé de la ranger. Il a remis l'aiguille en place, mais n'a pas réussi à faire fonctionner la sonnerie. C'est une grande tristesse pour lui.
Il frappe à la porte du salon et entre. Puis, en ressort.
Vous pouvez entrer, monsieur.
Galien entre. La porte se ferme derrière lui. Le salon non plus n'a pas changé. Toujours aussi clair et lumineux. Claire et Didier sont debout, tous deux habillés de blanc. Ils sont beaux, un côté irréel. Des apparitions hors du monde. Ils vont vers lui. Elle lui dit, « Merci d'être venu. » L'embrasse. Didier lui tend la main. Elle leur dit, « Allons nous asseoir. » Ils vont s'asseoir dans un coin du salon où se trouvent des fauteuils. Asseyez-vous. Galien s'assoit. Didier et Flore vont s'asseoir en face de Galien.
Vous désirez boire quelque chose ?
Oui, merci. Elle appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Elle dit à Galien,
Nous tenions à vous inviter, c'est pour que vous ne pensiez pas que nous sommes fâchés contre vous. À Paris, vous avez été tellement gentil, et nous tellement étranges.
Didier lui dit, c'est surtout moi qui l'étais. J'étais un imbécile, jaloux, mais je crois que Flore vous a raconté la chose.
Oui, et je comprends.
On a frappé à la porte.
Entrez.
Entre Martin, avec une table roulante et les boissons dessus.
Il va vers eux.
Flore demande, « Vous désirez boire ? »
Galien lui répond « jus de tomate ». Elle lui dit « Vous ne risquez rien avec ce jus de tomate. Il est fait avec nos tomates de notre jardin. Elles ne sont pas en plastique. » Galien sourit. Martin demande
« Sel, poivre, autre piment ?»
Galien lui dit « Un peu de sel, merci. » Et Martin le serre. Et lui tend le verre.
« Tenez, monsieur. »«
Merci. » Flore lui dit « La même chose, Didier. »«
Moi aussi. »
Et Martin les serre.
Et il se retire.
Galien leur dit, vous savez, nos tomates biotechniques améliorées ne sont pas en plastique, elles sont simplement plus costauds, plus rondes, plus rouges. Flore lui dit, pourtant on raconte que ça tue les globules blanches. Galien lui dit, non, c'est tout à fait faux. Je vous présenterai mes laboratoires et vous verrez. Les journalistes disent n'importe quoi. Ils boivent une gorgée. C'est très bon. Alors, que faites-vous ? Didier lui dit. Nous avons enfin décidé de nous marier, après 19 ans. Il serait bien temps. Elle lui dit.
Oui, mais malheureusement, il faut que l'on retrouve ce fameux Marc, le frère de Didier. Didier pense que c'est le président, alors nous avons écrit pour lui demander l'autorisation de nous marier. Nous n'avons pas encore eu de réponse, mais dès que nous l'aurons, nous nous marierons.
Galien demande, ensuite, vous irez vivre ailleurs? Elle lui répond, les parents de Didier aimeraient c'est que nous restions ici avec eux. Ils ont pris l'habitude de nous avoir, alors nous allons sûrement rester ici. Galien demande, « Vous allez travailler ?» Didier lui dit, « Vu le chômage et comme nous n'avons jamais rien fait, ce serait pas facile de trouver quelque chose. Quoique, père avec le ministère des Affaires étrangères, mais cela ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est la botanique, les plantes. » Galien lui dit, « Je peux vous embaucher si, quand vous voudrez, comme chercheur de plantes rares. Vous partez avec un car spécial, visitez les forêts tropicales et me prenez des spécimens rares, bien payés et très intéressants. » Didier lui dit, je vais réfléchir, c'est-à-dire que il y a Flore. Galien lui dit, vous pouvez l'emmener. Didier lui demande, et que fera-t-elle là-bas?
Elle fera le secrétaire.
Je vais y réfléchir, je vous remercie. Je dois convaincre la famille. Galien lui dit, vous êtes major, vous savez.
Oui, je le sais, malheureusement. Je vais d'abord régler mon mariage, si mon frère pouvait me répondre.
Flore demande, vous croyez que c'est le président? Galien lui dit, vous ne le reconnaissez pas?
Didier lui dit, c'est-à-dire depuis 19 ans, et puis, les derniers temps, il était toujours au lit. Depuis qu'il nous a quittés, il n'a fait que changer d'identité. Alors, comment savoir?
On a frappé à la porte.
Entrez!
Entre Charles, le sourire aux lèvres, habillé d'un costume gris clair, d'une cravate rouge, sur une chemise blanche.
Bonjour tout le monde!
Il s'approche d'eux. Galien se lève. Charles lui tend la main et lui dit « Galien, quelle heureuse surprise !»«
Bonjour Charles, je suis venu dire bonjour à Flore et Didier, ils m'ont dit de passer. »
Flore dit à Charles « Tu veux boire quelque chose ?»«
Oui, merci. »
Il va s'asseoir à côté de Flore. Flore appuie sur la sonnette. Charles demande « Que deviens-tu, Galien ?» Galien lui répond
« Je suis dans le futur. L'ADN, la biotechnique, l'informatique, nous préparons l'avenir. »
Charles lui dit
« Eh, tu fais revivre les morts. »
Galien ouvre ses épaules et lui dit « Des histoires journalistes. »
On frappe à la porte. « Entrez. »
C'est Martin. Flore demande « Qu'est-ce que tu veux boire, Charles ?»«
Un jus d'ananas. »
Martin sort du salon pour aller le lui chercher.
Galien demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais, Charles ?»«
Moi, pour le moment, je prépare un livre sur les madones du Moyen-Âge. Si tu veux, je peux te le montrer. »«
Oui, je veux bien. »
On a frappé à la porte.
Flore dit « Entrez !» C'est Martin. Il apporte la boisson de Charles.
Merci.
Et Martin quitte la pièce.
Deux heures plus tard, après avoir fait une promenade dans le parc, un parc magnifique qui a des tas de surprises pour les promeneurs, avec ses coins, ses recoins, ses chemins, etc. Galien est allé dans la chambre de Charles qui est en réalité un petit appartement offert par Madame de Hautebord. Il y a une grande chambre, très vaste, avec une grande fenêtre, un salon avec un petit balcon, une salle de bain. Le tout est meublé Louis XV. Le salon a un coin bureau. Charles lui montre son appartement privé.
C'est très beau.
Oui, Hélène me traite comme si j'étais son fils.
En fait, je remplace Marc Parti.
Puis, ils vont s'asseoir dans le coin bureau.
Charles lui montre des livres, des reproductions de tableaux dont il va parler. Galien lui dit « Ça va être difficile de décrire tout ça, les formes, les couleurs, vues d'ensemble, des tailles. » Charles, qui a fait asseoir Galien sur un fauteuil, s'est assis sur un des bras. Il a mis son bras pour entourer le dos de Galien. Galien sent sa main qui lui caresse le haut de son dos. Charles a la main douce. Et c'est bien. Il est bien de sa personne aussi. Galien tourne les pages et lui dit « C'est très joli. »
Il sent le souffle de Charles sur son dos, sur son cou.
Charles se lève et lui dit « Je dois prendre ma douche. Je vais m'en aller. Non, tu peux rester. »
Charles quitte la pièce pour aller dans la salle de bain. Galien est resté à feuilleter le livre. entend du bruit. Charles qui quitte ses vêtements.
Le bruit de l'eau. Charles qui lui dit « Tu t'ennuies pas trop ?» Il répond non. En levant la tête, il voit Charles dans le salon nu et beau comme un dieu grec, ou plutôt comme le jeune Achille. Galien est subjugué par la beauté de ce corps. Mais très vite, il rougit et baisse les yeux.
Charles lui dit « Pourquoi tu es gêné ? Je ne suis pas un monstre. Allons, tu peux me regarder. Cela ne me gêne pas du tout. »
Galien lève les yeux.
Charles lui dit, au lieu de rougir comme ça, si tu veux, tu peux venir me laver. Tu n'en as pas envie?
Attention, c'est peut-être la seule occasion que tu as à le faire. Allons, viens.
Galien rougit et plein de désir se lève. Il va vers Charles, bande, et voit que Charles bande aussi. Galien est plus jeune que Charles, mais la différence d'âge ne se voit pas à cause de la perfection du corps de Charles. Charles entre dans la salle de bain. Galien le suit tremblant. Charles entre dans la baignoire. Il aime se montrer, c'est qu'il a un beau corps. Charles lui dit, approche, n'aie pas peur. Galien s'approche tremblant. Prends le gant mouillé et mets-y du savon. Galien ne bouge pas.
Tu n'en as pas envie? Tu n'as pas envie de me toucher?
Hein? Galien ne dit rien. Charles lui donne le gant. Galien le prend et ouvre le robinet de l'eau. Pour le mouiller. Puis prend le savon. Savonne le gant.
Passe-le sur mon corps.
C'est ce que fait Galien.
Touche ce corps si beau, si ferme. N'ose pas regarder Charles.
Le ferme
en fermant presque les yeux sur les parties du dessous. Charles lui dit, le ventre, les fesses, mieux.
Galien est de plus en plus chaud. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a le souffle court.
Descends maintenant.
Galien a le vertige. Il voit tout tourner et blanc. Il manque de tomber. Il se maintient avec les mains sur le rebord de la baignoire. Reprend conscience. Se redresse. Et sort de la salle d'eau.
Charles lui crie « Idiot !»
Galien s'est arrêté devant la porte. Il reprend son souffle. Il a envie de vomir. Il se sauve. Charles sort de la salle de bain. En peignoir lui crie
« Où vas-tu ? Où ?»
Il a déjà quitté l'appartement de Charles. Thank you. Galien, pendant son séjour à Lyon, va voir son ami Philippe. Ils ont décidé tous les deux de se promener au parc. Le temps est doux, il y a peu de monde. Philippe lui demande « Et l'histoire des tableaux des sept soleils ?» Galien lui dit « J'ai rien trouvé. » « Je me demande si le groupe Jeune Tout ne fait pas partie des sept soleils. » Philippe lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ce doit être un nom comme ça, des Templiers, tu vois, le genre... Les gens aiment bien le côté ésotérique bizarre, de bazar. Moi, j'aime pas du tout ça. » Philippe lui dit « Moi non plus. Tu crois que ça peut être dangereux ?»« Oui, tu as vu ce qu'ils ont voulu te faire. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne peux avoir de l'aide de personne. Je sais que Danfort doit y être. D'ailleurs, ils y sont tous. Alors quitte tout ça, j'ai l'impression que si je les quittais, ils me retiendraient de force. En réalité, je n'ai que toi si j'ai besoin d'un coup de main. » Arrivait un homme vers eux, habillé d'une façon exotique. Un costume vert, trop court, des chaussettes roses, des cheveux teints violets en broussailles. Il tient à la main une liasse de tracts. Il en donne une feuille aux deux cousins. « Tenez mes choux !» Et s'éloigne. Galien lit son papier. « Pétition pour les mariages homosexuels. » Il soupire et dit « Les homosexuels sont idiots de se faire remarquer comme ça. » Les élections arrivent, alors la gauche ratisse large, mais en réalité, elle est gênée par les homos. Elle ne les aime pas. Tu sais, dans les années 50, il ne faisait pas bon d'être homo et ouvrier dans une usine. Là, les autres ouvriers vous en faisaient voir de toutes les couleurs. Ils étaient injuriés, insultés. On les violentait, même sexuellement. On les menait dans un coin noir sombre de l'usine et tout le monde leur passait dessus pour les battre ou leur faire des choses. Même les syndicalistes y participaient. D'ailleurs, que ce soit la direction ou les syndicats, personne ne les défendait. La direction préférait fermer les yeux. Par contre, chose étrange, lorsqu'un cadre était homo, les ouvriers ne disaient rien. Même cela leur paraissait normal et pas choquant. Et la direction non plus. C'était permis aux cadres, aux bourgeois d'être homo, mais pas aux ouvriers. Et les ouvriers étaient violemment contre les ouvriers homo, mais ils acceptaient les homo cadres. Les partis politiques de gauche n'ont jamais été vraiment du côté des homo. La preuve des pays de l'Est. Les homo devraient demander qu'une chose. C'est d'être traité comme des citoyens comme les autres. Et rien de plus. Et puis, ils devraient être plus discrets, ne pas faire la folle, ne pas défiler comme des filles de mauvaise vie. Cela les rend de moins en moins sympathiques. Et puis, il faut qu'ils pensent que les mères de famille qui sont en ville avec leurs enfants sont gênées en voyant défiler ces filles en délire. S'ils ont mauvaise presse aussi, c'est parce que chaque fois qu'ils parlent d'eux dans une émission ou un film, ils parlent du sida. Alors aux yeux des gens, homo égale sida. Galien lui dit, de toute façon, ils n'ont pas trop à se plaindre en France. L'homosexualité n'est pas considérée comme un délit. Elle n'a jamais été considérée comme un délit, en tout cas depuis Napoléon, sauf pendant la guerre de 40. Napoléon Ier, qui avait un ministre de l'Intérieur homo, et il s'en amusait. Il faut remarquer, c'est que les chefs d'État qui ont été militaires en général ne sont pas sévères pour les homos, puisque pour eux, le sexe, c'est avant tout une affaire d'hygiène. Même De Gaulle était indulgent. La preuve, il l'a été avec Monterland et la personne qui a fondé l'hebdomadaire L'Observateur. Pourtant, il connaissait les penchants, leurs penchants. Cela n'a pas empêché de nommer Monterland à l'Académie et en le blaguant un peu, et celui de l'Observateur, il voulait qu'il l'interviewe. Philippe lui dit «
pour ce qui est de permettre le mariage à tous avec les mêmes avantages que les autres, c'est ridicule. À force de donner les mêmes avantages pour les gens que les gens mariés, il y a de plus en plus de gens qui ont des avantages, et les avantages disparaissent, car l'argent reste le même, mais divisé entre de plus en plus de personnes. Tout ceci a commencé par Pompidou avec les enfants légitimes, puis les concubins, puis les femmes seules avec enfants, etc., etc. Kalia aimerait vivre avec Philippe, mais ne veut absolument pas une union officielle. Je trouve ridicule de singer le mariage. Je suis contre le mariage, mais le respecte pour ceux qui se marient pour créer une famille. En Amérique, à Washington, dans le bureau du président des États-Unis, le président a réuni le ministre de la guerre, le directeur de la CIA, les généraux de la marine, l'armée de terre, l'aviation, le ministre des Affaires étrangères, un secrétaire d'État et le vice-président. Le président leur dit : Je vous ai réunis, c'est pour un conseil de guerre. La chose est grave. La France, d'après la CIA, détiendrait l'ADN du Christ, c'est-à-dire qu'il détiendrait Dieu. Le directeur de la CIA lui coupe la parole et lui dit : C'est le groupe industriel Genetou qui le détient. Le président lui dit : C'est la même chose. Donc, c'est grave. Il faut que Dieu, qui appartient à tous, soit remis à l'ONU. Nous devons nous tenir prêts pour une nouvelle croisade pour récupérer Dieu. Des avions, des marins, des navires, des porte-avions, des fusées, des missiles doivent être prêts pour attaquer la France. Si la France refuse de remettre Dieu à l'ONU, nous irons le prendre de force. Nous aurons l'aide de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, même des Russes et de Saddam Hussein. Une nouvelle guerre, genre guerre du Golfe, voilà ce que nous devons préparer. Je demande au chef des armées d'être prêt. Le chef de l'armée lui dit : Nous serons prêts, monsieur le président. Les autres pays croient que la France détienne Dieu et se rallient du côté des Américains. Galien demande à Danfort de faire quelque chose. Danfort le demande au pape. Le pape fait une allocution officielle et dit :
J'excommunie tous ceux qui touchent à la France. La France est terre sacrée. Son peuple est de souche est élu.
Les Juifs protestent. Ils sont furieux.
le pape leur dise de se taire. Autrement, ils dévoilent au monde leur vraie origine et l'origine de Moïse. Les Juifs se taisent. Pour le moment, en réalité, on ne sait même pas si l'ADN est de Dieu, car les essais ne donnent rien de spécial, sauf que les animaux, végétaux, où on a mis de cet ADN, sont plus lumineux et semblent plus primaires. On essaye de voir d'où provient cette lumière.
Au Vatican, les cardinaux sont agités, car ils ont appris que le pape est du côté de la France parce qu'il est payé.
Cardinal dit, il a vendu Dieu pour de l'argent.
Un autre dit, c'est scandaleux, il faut le faire quelque chose.
Le cardinal dit,
nous allons faire front et tuer le pape, puisqu'on ne peut pas le destituer.
Oui, tuons-le, oui, tuons-le.
Ces bruits prend peur. Il convoque dans son bureau un cardinal, le cardinal Micheli, un grand gros homme dans les 50 ans. 55 ans, excusez-moi.
En face du bureau du pape.
Le pape lui dit,
j'ai bien du remords au sujet de cette histoire de Saint-Suaire. J'aurais pas dû faire ces choses. Je vais dénoncer la biotechnique, la recherche sur l'homme, les expériences avec l'ADN. J'interdis la modification des principes fondamentaux de la création. Voilà ce que j'ai décidé. Bien entendu, je demanderai le Saint-Suaire et l'ADN qui me soient restitués, qui nous soient restitués.
Thank you.
et il fait sa déclaration. Les pays respirent. Si l'ADN est remis au pape, l'on est sauvé, la France n'aura pas sa guerre, à moins que... Par contre, les juifs sont furieux et disent que l'ADN de Dieu est à eux. Danfort est furieux. Il y a dans son bureau le primat des Gaules, le cardinal de Paris. Le primat des Gaules est un grand homme sec, cheveux blancs dans les 60 ans. Le cardinal de Paris, petit homme, gros, cheveux noirs dans les 70 ans. Le cardinal de Paris, Felitti, dit à Danfort, les cardinaux ne sont pas tous d'accord avec le pape. Ils sont pour le progrès, pour la biotech, et disent que les nouvelles techniques vont sauver des milliers de gens qui meurent de faim et de maladie. Que l'Église ne doit pas être une entrave à la science. Danfort lui dit, je suis furieux, furieux. C'est nous qui l'avons mis, payé. Et pour nous remercier, voilà ce qu'il fait. Il a aidé les judo-américains. Ils ont dû lui donner une sacrée somme. Nous devons l'éliminer. Qui pouvons-nous mettre à la place? Le primat des Gaules, Monseigneur Guinet, lui dit. Malheureusement, nous n'avons personne. Et il voudrait sûrement un Italien, autrement. Je me serais bien présenté, pour vous servir, bien entendu. L'enfant lui dit, si l'élu était pape, mais pour être cardinal, il faut être prêtre, et cela prend du temps. Si on peut aller plus vite, en quelques semaines, j'y mettrai le prix. Monseigneur Guinet lui dit, malheureusement, non. L'enfant réfléchit, et lui dit, j'en mettrai le cerveau de Pontoise dans l'un de vos cardinaux, ou Guillaume de Fleury, l'ami de l'élu, ou le fils de Pontoise, Lucien. Felitti lui dit, Pontoise, vu son caractère et ses idées, il vaudra mieux que vous le gardiez près de vous pour le surveiller. L'enfant lui dit, vous avez raison. Alors, Guinet lui dit, son fils non plus, il paraît qu'il a des idées de gauche. Il ne reste plus que Guillaume. Monseigneur Guinet demande, l'amitié avec l'élu n'est-elle pas un peu équivoque? L'enfant lui dit, cela renforce les liens, c'est encore mieux. Felitti lui dit, bien, nous sommes d'accord pour ce Guillaume de Fleury, pape. Mais dans quel corps? L'enfant lui dit, il faut choisir un cardinal jeune, en pleine santé. Vous allez m'en chercher un. Vous me le présenterez, nous le rendrons malade et le ferons opérer pour le transfert des cerveaux. Pendant ce temps, moi je vais prendre le cerveau de Guillaume de Fleury, le réactiver, lui apprendre ce que doit être sa politique. Il faudra aussi lui apprendre sa nouvelle identité. Souvenirs, famille, Dieu, études, maladies, savoir, etc., etc. Dès que vous avez choisi votre homme, vous m'envoyez le plus vite possible tout ce que vous savez sur sa vie, biographie, publique et intime complète. Allez, au travail. Ah, j'oubliais. Ils veulent absolument un pape italien. Felitti lui répond, malheureusement, oui. Bien. Il faudra en plus lui apprendre à Guillaume l'Italien. Cela va prendre du temps. Pour éviter que le pape ne prenne des décisions et mette en action celles qu'il a décidées, nous devons l'affaiblir. Je vous ferai passer un produit pour lui donner qui l'affaiblira. Mais ne le tuez pas avant que nous ayons notre cardinal prêt avec son nouveau cerveau. Bien, vous avez d'autres questions à me demander?
Non.
Non. Très bien, messieurs. Vous pouvez vous retirer et faites diligence pour me trouver un cardinal jeune, en bonne santé et qui ait une biographie sans tache, pas d'histoire de mœurs ou de corruption. Monseigneur Gonnet lui dit, sera difficile. Quel est le cardinal qui n'a pas de petites faiblesses? Felitti lui dit, et vous,
Quelle est votre petite folie ?
Conneil lui répond.
Cela ne vous regarde pas.
L'enfant leur dit. Pas de dispute. Nous sommes unis pour défendre nos causes. N'oubliez pas, c'est que vous êtes entrés dans l'église pour aider les intérêts des sept soleils. En ce moment, il nous faut un pape. Allez, messieurs.
Et les deux cardinaux le quittent.
Et 2 heures plus tard, d'Amphore.
Allô? J'aimerais parler à Monsieur Riquin, s'il vous plaît. C'est d'Amphore. Merci. Allô, Riquin? Il faut que tu viennes me voir de toute urgence. C'est très urgent. Oui, je t'attends.
Venez vous asseoir.
Voilà, je vous ai fait venir parce qu'il faut prendre le corps de Guillaume de Fleury pour lui enlever son cerveau et son ADN. Le cerveau, il faudra le réactiver, le remettre en marche, mémoire, etc. Il doit être mis dans le corps d'un cardinal italien. Mais avant, on doit lui apprendre au cerveau la biographie privée et publique de son nouveau cœur et ce qu'il doit faire pour nous. Et malheureusement aussi, l'italien. Riquin lui dit, je vois, vous ferez en quelque sorte un espion à notre botte et qui sera à l'intérieur d'un cardinal. C'est très intelligent. L'enfant lui dit, plus que vous le pensez, ce cardinal, nous allons en faire un pape. Riquin lui dit, si nous réussissons pas, nous sommes perdus. Déjà le monde nous en veut à la France d'avoir Dieu. Là, ils vont dire que nous avons pris la papauté. Et que faire du Saint-Suaire ? Et de son ADN. L'enfant lui dit, rien. Nous dirons au pape que nous lui rendrons une fois nettoyé. Mais nous allons attendre qu'il décède. Est-ce que l'élu sait que Guillaume de Fleury? Non, nous ne lui dirons pas.
Riquin lui dit, mais il y a un problème tout de même. L'élu est notre chef, à nous tous. Et on doit tout lui cacher.
Riquin lui dit, il est jeune et plein d'illusions, et puis il n'a pas été formé. Si Juntou avait eu un fils, ça aurait été plus facile. Il serait né dans notre sérail. Mais là, Riquin lui demande, vous croyez que c'est bien lui et qu'il a eu... L'enfant lui dit, bien ou non, nous sommes obligés, c'est nous y soumettre. Riquin lui dit, mais... Il a dû se tromper. L'élu ne se trompe jamais. Il l'a choisi parce qu'il devait le choisir.
Un inconnu.
L'enfant lui dit, Jésus aussi a été élu et était inconnu.
Riquin lui dit,
ce n'est pas tout à fait ça. Jésus était le Fils, Dieu fait homme, si vous le voulez. Mais dans sa jeunesse, personne ne le savait, même pas lui. De toute façon, la chose est faite. Souhaitons que le prochain élu soit formé dès sa naissance.
Riquin demande, l'intention de se marier?
Non, pas pour le moment. Si on lui trouvait une femme de chez nous, serait une bonne idée. Mais avant, occupons-nous de ce pape que nous allons façonner à notre goût. Celui-là risquera de nous trahir. Il faut faire vite, car nous devons éliminer l'autre le plus vite possible, à cause de ses idées idiotes. Retirez-moi vite ce corps et dégagez le cerveau. Ensuite, vous le nettoierez et le prendrez sur l'ADN. Vous mettrez le tout en congelé en attendant que je reçoive les informations. Bien, monsieur, allez-y.
Erika sort du bureau.
Envoie deux hommes avec une camionnette chercher le corps de Guillaume. La camionnette a quitté Paris à minuit, car le corps, après mûre réflexion, a été déterré et enterré dans le caveau familial de Madame de Fleury, en Normandie, dans un petit village. Après deux heures de route, la camionnette s'est arrêtée devant le mur du cimetière du village qui se trouve en plein champ et n'est pas surveillé. Ils sortent de voiture. Les deux hommes sont habillés de noir. L'un ouvre l'arrière de la camionnette, prend une pelle, un marteau, un burin et des grosses cordes. Il donne le tout à son compagnon. Ferme la camionnette. Un des hommes escalade le mur qui est vieux et a des trous. Une fois en haut, l'autre lui donne les affaires. L'autre les prend et les jette de l'autre côté. Le deuxième monte et escalade. Il arrive de l'autre côté. Ils prennent une allée du cimetière en se servant de torches qu'ils avaient dans leur poche. Enfin, ils trouvent la tombe. Toute simple, sans fleurissure. Guillaume de Fleury, date de naissance, et c'est tout. Madame de Fleury n'a pas voulu le mettre dans le tombeau de sa famille. Elle le trouvait trop jeune dans ce tombeau de vieux et vieilles dames. Les deux hommes se penchent, nettoient le devant de la tombe, prennent avec des coups de marteau et des burins autour du socle. Puis, à eux deux, ils le déplacent. Ensuite, avec la pelle, ils creusent. La terre est humide et lourde. Après une demi-heure, ils sont arrivés au cercueil. Ils laissent le cercueil dans le trou, l'ouvrent
en cassant le couvercle. Là apparaît Guillaume. Son visage ne semble pas avoir été abîmé par le temps. Vite, on soulève le corps avec les cordages et on sort. Puis, ils prennent le corps et le hissent, aidé par les cordes, on le pousse par-dessus le mur. Un des hommes va de l'autre côté, l'autre lui passe le corps. Un quart d'heure plus tard, ils sont partis. Le corps a été mis dans un sac en plastique. À 7 heures du matin, la camionnette s'est arrêtée au laboratoire. Demi-heure plus tard, il est sur la table d'opération. Ricain en blouse, avec des infirmières et médecins, regarde la tête. Il voit avec surprise que le crâne a été ouvert. Il ouvre le crâne. Plus de cerveau. Merde, on a volé le cerveau. Qui a pris le cerveau? Et pourquoi faire? Je vais prévenir d'enfort. Et il sort de la table de la salle d'opération.
Quitte ses gants. Enlève sa blouse.
Se lave les mains.
Et va à son bureau.
J'aimerais parler à Danfort.